Bonjour à tous. Premier week-end de départ en vacances, journée classée orange dans le sens des départs et une crainte que le variant Delta s'invite pendant nos congés. Un juge français chargé d'enquêter sur la vente d'avions Rafale à l'Inde en 2016. Le juge a été saisi par le parquet national financier pour soupçon de corruption sur un contrat à plusieurs milliards d'euros. Week-end au sommet dans les Alpes pour le Tour de France. Les coureurs vont s'élancer dans quelques minutes pour la 8e étape entre Oyonnax et le Grand Bornand. Nous serons avec Fanny Lechevestrier dans un instant. Dans ce journal également, notre rendez-vous, un moment dans l'espace avec Thomas Pesquet pour son journal de bord de la semaine et la prescription culturelle du week-end et le film Teddy, un loup-garou à la campagne. La météo pour cet après-midi et pour demain avec le retour de la pluie et des orages par l'ouest. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
Et on débute donc avec le Tour de France et la première étape de montagne aujourd'hui, après une semaine de courses surprenantes, animées avec des chutes spectaculaires et dramatiques. Le peloton passe son week-end dans les Alpes, la très haute montagne avec aujourd'hui un grand classique, le Grand Bornand, une étape intense avec plus de 20 km d'ascension et des cols à franchir. Le décor est planté. David Godu du Groupama FDJ à quelques minutes du départ.
Ouais, aujourd'hui c'est premier test en montagne pour les leaders. Il y a beaucoup de leaders, je pense, qui étaient en difficulté hier. Donc aujourd'hui, c'est un vrai test de montagne. Je suis content d'être au départ. En plus, il pleut, donc je suis content. Et j'espère que je répondrai présent, en tout cas, dans le final.
Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Frédéric.
Notre envoyé spécial sur le Tour de France ce week-end dans les Alpes peut donc avoir un rôle majeur dans ce Tour édition 2021 avec Mathieu Van Der Poel et Wout Van Aert, deux jeunes bien accrochés aux deux premières places.
Oui, deux coureurs de 26 ans venus avec leurs habitudes du cyclo-cross et qui bousculent tout sur leur passage, hein, qui jusqu'à aujourd'hui nous ont vraiment régalé avec leur façon de courir, hein, sans calcul. C'est vrai que l'on n'était plus habitué, Frédéric, à voir un maillot jaune, hein, se lancer dans une échappée au long cours. Ce sera toutefois difficile, hein, de tenir ce week-end pour Mathieu Van Der Poel en montagne. Wout Van Aert, hein, peut lui tenir même s'il se dit trop lourd en montagne, trop gros. L'an dernier, il avait tout de même impressionné tout le monde, hein, emmené Primoz Roglic dans sa roue dès que la route s'élevait, donc il a surveillé. Et pour tout vous dire, nous, on a hâte de suivre son duel à distance avec Tadej Pogacar, le vainqueur du Tour l'an dernier, qui est à 3 minutes derrière au général.
Alors Fanny, côté français, que peut-on espérer durant ce week-end dans les Alpes?
Bien, on espère déjà des bonnes performances. Pourquoi pas une victoire d'étape aujourd'hui? Allez, Julien Alaphilippe, personne n'a oublié, hein, l'histoire d'amour entre le Tour et Julien. Elle a commencé au Grand Bornand en 2018. Il s'y était imposé en solitaire avec le même final que cette année. Enchaînement Col de Rome, Col de la Colombière. Alors pourquoi pas tenter de rééditer? Après, on faut surveiller d'autres Français, hein, qui peuvent briller aujourd'hui. On pense notamment à Guillaume Martin, entre autres. On voudrait savoir aussi où en sont Pierre Latour, 9e du classement général, et David Godu, que vous avez entendu il y a quelques instants, 19e, et qui affectionne tout particulièrement en plus les conditions météo du jour, de la pluie tout du long jusqu'au Grand Bornand.
Fanny Lechevestrier, merci, avec Jean-André Gianni Kini. C'est un dossier qui suscite l'émoi en Inde depuis plusieurs années, les ventes d'avions Rafale, et qui rebondit aujourd'hui en France. Un juge d'instruction vient d'être saisi pour enquêter sur des soupçons de corruption sur ce contrat à plusieurs milliards d'euros et la vente de 36 avions Rafale à l'Inde en 2016. L'ONG Sherpa avait déposé plainte le 22 avril dernier avec constitution de partie civile. Un juge d'instruction va donc enquêter, comme le révélait hier Mediapart Corinne Audouin.
Oui, le parquet national financier demande au juge d'enquêter sur des faits de corruption et de trafic d'influence. En marge de ce contrat de près de 8 milliards d'euros, les soupçons portent sur le choix de Reliance, le partenaire indien de l'avionneur français Dassault. Car Reliance, une société privée sans aucune expérience dans l'aéronautique, appartient à Anil Ambani, un très proche du Premier ministre indien. Elle a été choisie après l'interruption brutale des négociations entre Dassault et l'avionneur public. public indien. Pourquoi ce groupe a-t-il été choisi? Des commissions occultes ont-elles été versées? À l'époque, le président François Hollande avait dit ne pas avoir eu le choix du partenaire indien de Dassault. Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, avait lui assuré n'avoir subi aucune pression de l'Inde. Pour les avocats de Sherpa, la désignation d'un juge est un premier pas important vers la manifestation de la vérité dans un dossier qui présente déjà, je cite, « toutes les apparences d'un scandale d'État ».
Corinne Audouin, des glissements de terrain spectaculaires et effrayants au Japon. Le bilan provisoire est de 2 morts, 20 personnes sont portées disparues. Des torrents de boue provoqués par des fortes pluies ont emporté des maisons dans la région des Shizuoka, au sud de Tokyo. Les autorités locales appellent l'armée à l'aide. Sur place, Karine Nishimura.
À Tami, d'habitude, c'est la plage et la mer en été, les bains chauds dans les grands hôtels qui dominent la côte en hiver. Mais ce samedi, c'est la désolation. Une énorme coulée de boue a ravagé une partie de la ville à cause de sols montagneux fragilisés par une pluie incessante. En zone habitée, le drame est imparable. Prises au piège avec leur maison, une vingtaine de personnes sont portées disparues. 2 ont été retrouvées sans vie en contrebas. Les secours, aidés par les militaires, s'activent, mais le survol de la zone est impossible. La visibilité ne dépasse pas quelques dizaines de mètres. Selon les responsables municipaux, le même phénomène risque de se produire en d'autres endroits de cette agglomération construite à flanc de montagne. Des habitants sont d'ores et déjà évacués. D'autres zones du même département de Shizuoka ou de régions limitrophes sont aussi menacées par des inondations et glissements de terrain, d'autant que la pluie devrait revenir dimanche. À Tami, Karine Nishimura pour France Inter.
En France, premier week-end de départ en vacances avec une journée classée orange sur les routes et des bouchons à prévoir. Des vacances qui débutent sous la menace des variants et la crainte que le variant Delta ne gâche nos congés. Pour sauver l'été, le gouvernement, les scientifiques le répètent, il faut poursuivre et amplifier la vaccination. Vincent Maréchal, professeur de virologie à Sorbonne Université, il observe l'évolution du virus dans les eaux usées. Il constate que le variant Delta est de plus en plus présent et le plus important, selon lui, c'est le contrôle des clusters et bien sûr la vaccination.
Aujourd'hui, le variant Delta, on ne le détecte pas encore de façon importante dans les stations sur lesquelles on a mis en place ce suivi, mais on s'attend à ce que le variant britannique, qui est toujours le variant dominant en France aujourd'hui, progressivement se fasse substituer par ce variant Delta, qui est beaucoup plus contagieux, rappelons-le, 40 à 60% plus contagieux que le variant britannique. Donc on pense que dans le courant de l'été, c'est le variant Delta qui risque de prendre la main, et puis c'est lui qui risque de donner une tendance à la hausse. Donc en fait, il y a deux processus, hein, c'est tendre le plus vite possible, comme ça a été répété, vers une vaccination massive, et entre-temps, et ne pas l'oublier, faire en sorte durant tout l'été que l'on surveille les départs épidémiques, qu'on surveille les clusters. Vous savez également que c'est au moment où l'incidence est la plus faible. Aujourd'hui, elle est de l'ordre d'environ 19 pour 100 000 habitants. Et bien, c'est à ce moment-là qu'on peut remettre en place un processus de détection, de tracing et également d'isolement qui doit être efficace jusqu'à cette immunité collective que l'on attend.
Le professeur Vincent Maréchal avec Jules De Kies, 2 jours après avoir abattu un homme armé d'un couteau près de la gare d'Hermans-Aubonne dans le Val d'Oise. 2 agents de la sûreté de la SNCF ont été mis en examen pour meurtre. Les 2 hommes âgés de 27 et 33 ans ont été laissés en liberté sous contrôle judiciaire. Emmanuel Grabé.
Pour le parquet, il fallait établir si l'intervention des agents de la sûreté de la SNCF était légitime. Avec la décision de la juge d'instruction d'alourdir les chefs d'accusation, l'enquête va devoir déterminer si les 2 agents ont ouvert le feu de manière légitime et proportionnée face à la menace ou si l'intention de tuer l'homme était caractérisée. Une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux quelques heures après les faits dévoile en partie la scène sous un seul angle de vue. L'homme, une arme blanche à la main, refuse de se faire interpeller. Il s'agit près d'un groupe d'enfants et leurs accompagnateurs qui tous parviennent à s'éloigner en courant. L'homme marche alors dans leur direction avant d'être abattu par les tirs. 5 agents avaient été immédiatement placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Les 3 autres sont ressortis libres jeudi. Les 2 mis en examen sont eux désormais sous contrôle judiciaire.
Emmanuel Grabé, on a rendez-vous dans l'espace dans un instant. 4, 3, 2. Et c'est donc notre rendez-vous du samedi 13h. On passe un moment dans l'espace avec Thomas Pesquet pour son journal de bord de la semaine dans Mission Alpha. La semaine dernière, nous avions laissé Thomas Pesquet à la veille d'une 3e sortie dans l'espace pour achever la pose de panneaux solaires. L'équipage a ensuite préparé et réalisé le désarrimage du vaisseau cargo Cygnus si on était sur Terre. Eh bien, on dirait que les astronautes ont sorti des poubelles. Et comme l'explique Thomas Pesquet à Sophie Becherel, il faut un peu de méthode pour cela dans l'espace.
On l'a rempli de nos poubelles jusqu'à ras-bord. On fait quand même attention. Il y a toute une chorégraphie avec le centre de contrôle. Ils ont besoin de savoir exactement ce qu'on a chargé à quel endroit pour calculer le centrage du véhicule. C'est important pour les manœuvres de rentrée, pour que ce soit contrôlable. Puis ensuite, on ferme tout ça, on dépressurise le volume entre le Cygnus et notre sas à nous. Et ensuite, c'est le bras robotique qui va l'amener en position de départ. Quand il y a une distance de 4,5 mètres à peu près, le Cygnus allume ses moteurs doucement et puis ensuite va partir vers l'avant de la station. Ensuite, des manœuvres de rentrée atmosphérique. Au final, non, c'est plutôt des poubelles bien rangées, mais sachant qu'on essaie d'occuper le moindre recoin. Donc, il y a aussi un petit peu de remplissage sauvage dans les coins parce que on sait que le prochain camion poubelle, on va dire, c'est au mois de septembre. Donc là, pour l'instant, on va commencer à accumuler les poubelles dans le garage. Faut imaginer ça, hein, chez soi, pendant deux mois de poubelles et puis un camion poubelle tous les deux mois. Donc, quand il arrive, on essaie vraiment qu'il reparte le plus plein possible parce que c'est notre confort qui va en dépendre.
Lors de la troisième sortie dans l'espace, est-ce que vous avez pu savourer le moment ?
On n'en profite pas tellement en fait en sortie extravéhiculaire parce qu'on est quand même super concentré sur le travail, sur les résultats qu'il faut obtenir parce que c'est énormément d'efforts pour organiser une sortie, pour la préparer, etc. Donc chaque minute compte, on prend des photos un peu à la sauvette quand on n'a rien d'autre à faire. Par exemple, quand le bras robotique me déplace d'un endroit à un autre et que j'ai rien dans les mains, il n'y a absolument rien d'autre à faire. Donc j'ai pas l'impression de voler le temps si je fais des photos. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments aussi où on regarde un petit peu le paysage, on prend un peu de recul, on regarde la Terre qui défile sous les pieds, qui déroule plutôt, parce qu'on a l'impression que c'est une immense boule qui déroule sous les pieds. Il y a quand même eu des vues incroyables pendant ces sorties extravéhiculaires, quand on déroulait les panneaux et qu'on était en position pour les observer. C'était vraiment, on était pointé vers le bas, vers la Terre, on voyait d'un côté à l'autre de la Terre, c'était assez magique. Mais malheureusement, non, on a vraiment juste quelques petites minutes attrapées à droite, à gauche, et ensuite en venant dans la station, on a même pas pensé à aller regarder nos panneaux solaires par le hublot. On s'est reposé, on a dîné avec nos collègues et puis ensuite tout le monde est allé un peu se mettre au lit. Puis c'est le lendemain qu'on s'est dit, si on pourra au moins prendre un peu de recul et regarder de quoi ils ont l'air, ces panneaux pour lesquels on a tant lutté et tant transpiré.
Quel était le programme scientifique de la semaine ?
En ce moment, on a pas mal d'expériences sur les plantes. On a une expérience qui s'appelle Apex, qui étudie le coton dans l'espace, et on va bientôt passer au poivron. Donc on a tout un jardin. J'ai pas beaucoup participé à ça, mais je le vois parce que c'est dans Columbus en fait. On a cette lumière rose qui permet de recréer un petit peu les composants de la lumière du jour sur un cycle de 16 heures allumées, 8 heures éteintes. On a des techniques pour arroser à base de seringues qui sont un peu spéciales. Et on a notamment de l'hydroponie dans la station spatiale. Donc ça, c'est faire croître des plantes sans terre en fait directement dans l'eau. C'est une technique qui s'utilise de plus en plus sur Terre. On a notamment l'ambition de créer un cycle un peu fermé avec des poissons, des bactéries, des plantes, et tout ça s'auto-nourrit et produit de la nourriture sous forme de légumes ou de poissons pour les humains. Ça nous a pas mal occupé ces derniers temps.
Pour le paiement des factures, pour le vote régional, par exemple, qui s'occupe de vos formalités administratives ?
Ah oui, ça c'est une très très bonne question qui, mine de rien, n'est pas du tout anecdotique parce que moi je peux absolument rien faire. Je peux même pas me loguer dans mon email normal ou faire quoi que ce soit. On n'a pas un vrai accès à Internet. C'est un peu compliqué. Donc il faut avoir quelqu'un qui s'en occupe. On a un petit peu d'aide de l'agence spatiale, mais ça retombe quand même énormément sur le conjoint, la conjointe, qui malheureusement se retrouve avec tout ça. C'est pour ça que le vol spatial, c'est pas facile pour les autres. L'éloignement de longue durée, personne n'aime ça, personne ne trouve ça formidable. Et oui, chez moi, peut-être encore moins que chez les autres.
Mission Alpha, le carnet de bord de Thomas Pesquet avec Sophie Bécherel à retrouver sur franceinter.fr. Et on termine avec la prescription culturelle du week-end. Aller au cinéma, c'est la fête du cinéma, avec cette année la vitalité du cinéma de genre après les sauterelles vampires de la nuée. Voici le loup-garou de Teddy, un loup-garou français, rural et au poil. Et c'est déjà un classique, Corinne Pellissier.
C'est un peu Groland qui croiserait Freddy et l'univers des films de Wes Craven, une histoire de loup-garou remplie d'humour, de couleurs pop et de personnages biscornus. Le destin ici d'un adolescent, Teddy, décrocheur scolaire, rebelle, détesté dans son village et dont la vie va changer après une mystérieuse morsure par un soir de pleine lune.
M'étonne pas que tu aies eu des poils sur la langue et que tu les as rasés. Si tu te mets à hurler à la lune ou à te transformer en loup-garou, tu pourras revenir me voir.
À la fois chronique adolescente, comédie sociale, film d'horreur, Teddy renouvelle avec brio le film de monstre. Un pied dans la terre, un autre dans le fantastique, avec une œuvre qui surprend par le mélange des genres et par le ton. Élevé au roman de Stephen King, Ludovic et Zoran Boukherma ont largement digéré leurs références, mais n'oublient pas leurs origines.
On avait vraiment envie de faire se rencontrer les monstres un peu de notre enfance et la ruralité qu'on a pu connaître quand on était gamin, en fait. Donc essayer d'amener cet imaginaire américain dans le sud-ouest. Et là où normalement les films de loups-garous, ça raconte volontiers le passage à l'âge adulte, nous on a voulu détourner cette métaphore-là et en faire plutôt un film qui parle du coup d'exclusion sur fond de rancœur, un peu de classe, d'une certaine colère qui existe dans une partie de la jeunesse de la France périphérique.
La formule est efficace. Révélée à l'Acide de Cannes en 2016, récompensée à Gérard May, le duo prépare déjà son prochain film, autour cette fois d'un requin du côté d'Arcachon.
Teddy de Ludovic et Zoran Boukerma. La météo dans un instant.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Jean-Michel Golinski.
Des averses et des orages traversent le pays de l'océan vers l'est. Cette instabilité a déjà occupé le terrain ce matin entre la Bretagne, la Normandie, l'Artois, la région parisienne, le centre, le sud-ouest et l'Auvergne-Rhône-Alpes. En journée, ces averses, toujours mêlées de coups de tonnerre, vont gagner vers les frontières de l'est, alors qu'une relative accalmie va s'installer par l'océan. En fait, seuls les départements côtiers du golfe du Lion et de la région PACA ainsi que la Corse vont rester totalement à l'écart. Le tout dans des températures à peu près identiques à celles d'hier, c'est-à-dire voisines de 20 degrés le long de la Manche et de 27 à 30 sur les régions méridionales. Avec pour demain un air souvent plus frais au programme et nous allons retrouver, excepté sur la Corse, cette tendance pluvio-orageuse sur pratiquement l'ensemble du pays.
Jean-Michel Golinski de Météo France.